le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir.
Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles.
Les signalements pour comportements racistes et discriminants dans et aux abords des stades de foot ont augmenté d'après les chiffres de l'Union belge. On vous explique dans un instant.
Mais d'abord, retour sur les résultats du Super Tuesday, cette journée électorale majeure aux États-Unis qui désigne les candidats républicains et démocrates qui s'affronteront lors de la prochaine élection présidentielle.
Je m'appelle Pierre Fagnard.
Je m'appelle Sarah Saadi Garcia.
À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
Ce mardi, des millions d'Américains ont été amenés à voter lors du Super Tuesday pour désigner les candidats démocrates et républicains pour la prochaine élection présidentielle.
Sans grand suspense, Joe Biden et Donald Trump sortent vainqueurs de ces primaires et seront donc de nouveaux adversaires en novembre. Morin Picard est correspondant pour Le Soir aux États-Unis. Il analyse avec nous depuis New York les résultats de ce Super Tuesday. Bonjour Morin.
Bonjour Sarah.
Revenons tout d'abord sur ce qu'est le Super Tuesday. À quoi sert cette journée aux États-Unis ?
Le Super Tuesday, le Super Mardi. Mardi en français, c'est un petit peu la grand-messe de la campagne des primaires présidentielles, celle qui est un petit peu le premier grand rendez-vous du printemps tous les 4 ans aux États-Unis, avant le deuxième grand rendez-vous qui sera les conventions nationales des deux partis pendant l'été. Les républicains, ça sera en juillet à Milwaukee, dans le Wisconsin, et les démocrates, ce sera en août à Chicago, dans l'Illinois. Et c'est là que les candidats présomptifs seront un petit peu intronisés par leur propre parti pour devenir le candidat final de la dernière ligne droite à l'élection présidentielle qui aura lieu donc le 5 novembre prochain. Le Super Tuesday en mars, c'est un petit peu le point de bascule où pour la seule fois dans la campagne des primaires, vous avez toute une palanquée d'États américains qui votent au même moment, qui font voter leurs électeurs partisans au même moment, les républicains chez eux, les démocrates de leur côté. Et donc, il y en avait 16 hier, et c'est un petit peu le moment où les différents candidats encore en lice se disputent un grand nombre de délégués, les délégués de la future convention de l'été. Et bien évidemment, on est dans une année pas comme les autres, puisque cette année, il n'y a plus personne ou presque face à Joe Biden, et il ne restait qu'une seule rivale face à Trump. Donc, c'était un triomphe pour Trump et pour Biden, chacun de leur côté.
Est-ce qu'il y avait vraiment du suspense quant au résultat de ce Super Tuesday ?
Aucun suspense côté démocrate, puisque Joe Biden est le président sortant, donc aucun démocrate ne va se risquer à faire campagne contre lui. Ça sera pour 2028, quand il y aura une nouvelle génération de leaders démocrates. Il y a quelques candidats de seconde, voire de tierce zone qui tentent de gratter un petit peu quelques voix, surtout pour enquiquiner Joe Biden, des penseurs un petit peu indépendants, des mavericks, comme on dit en anglais, des marginaux. Et puis, bien évidemment, côté républicain, c'était Donald Trump face à la dernière rivale en lice, Nikki Haley, ex-gouverneur de Caroline du Sud, ex-représentante des États-Unis à l'ONU sous l'administration Trump, et qui a mené un combat d'arrière-garde absolument stupéfiant, puisque tout le monde pensait qu'elle allait lâcher prise avant le Super Tuesday. Eh bien, elle s'est maintenue jusqu'à hier soir, et malheureusement pour elle, l'aventure se termine aujourd'hui.
Mais elle lui a tout de même enlevé la victoire totale. Est-ce qu'elle ne le dérange pas un petit peu finalement ?
Elle fait plus que le déranger un petit peu. Elle a été un extraordinaire poil à gratter depuis le début de ses primaires. C'est très difficile de faire campagne contre un buteur tel que Donald Trump, qui ne se prive pas évidemment d'insulter et de harceler tous ceux qui se permettent de contester sa prééminence absolue dans le camp conservateur. Sachant aussi que Donald Trump, depuis 4 ans, a accompli quelque chose que personne ne le pensait capable. Il a vraiment pris les commandes du Parti républicain de manière définitive, au tel point qu'on ne dit plus le parti de Lincoln maintenant, on dit le parti de Trump. Donc c'est le parti MAGA, Make America Great Again. Tous ses supporters, qui sont donc très nombreux aux États-Unis, se promènent avec la casquette rouge. C'est une armée de bénévoles qui est totalement soumise au diktat de leur champion, qu'ils acceptent avec grand plaisir. Donc c'était très difficile pour une petite candidate comme Nikki Haley, qui incarne quelque chose de presque disparu, c'est-à-dire un républicanisme modéré, dont on aurait pu parler d'héritage de Reagan. Cette Amérique-là, cette Amérique conservatrice-là, a bel et bien disparu.
Il y avait des doutes jusque-là, mais est-ce que Donald Trump est aujourd'hui sûr de pouvoir légalement se présenter à l'élection présidentielle ?
Alors son éligibilité a été confirmée par la Cour suprême il y a 2 jours. Donc c'est une aiguille qui est retirée de son pied, une épine qui est retirée de son pied. Il va encore se poser la question de savoir si il bénéficie d'une immunité par rapport aux 4 procès fédéraux qui démarrent cette année contre lui, tout ce qui tourne autour évidemment de sa tentative d'inverser le résultat des élections en 2020-2021. La Cour suprême va devoir se décider là-dessus, ça sera entre avril et juin, on ne sait pas encore. Ça pourrait le contrarier, c'est-à-dire est-ce qu'il sera obligé d'aller dans ses procès ou est-ce qu'il pourra y échapper ? Lui dit évidemment que ses procès sont une persécution politique et qu'il n'a aucune intention d'y aller, et que d'ailleurs c'est tout à fait illégitime de lui demander de se présenter à un procès en pleine année électorale. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, un candidat à la présidentielle, même inculpé, même emprisonné, peut se présenter légitimement à une élection présidentielle, voire être élu. Donc un cas de figure totalement inédit où un candidat présidentiel se trouvant derrière les barreaux, ayant été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés au niveau fédéral, pourrait commencer son nouveau mandat depuis les barreaux d'une prison fédérale de haute sécurité. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis, mais on a un candidat socialiste de la troisième voie en 1922, qui s'appelait Eugene Debs, qui avait été accusé de haute trahison pendant la Première Guerre mondiale parce qu'il n'avait pas obéi. Enfin, il demandait la paix alors que l'Amérique était en guerre. Et il s'était présenté à la présidentielle, il avait eu 3% des voix, et il avait fait campagne derrière les barreaux d'une prison en Géorgie à Atlanta. Donc c'est possible, le droit américain, la constitution américaine n'a pas de réponse à cet égard, si ce n'est que Donald Trump pourrait se retrouver avec son fameux mugshot, sa photo de prévenu, et une combinaison orange, et faire campagne. Et lui est persuadé que même si ça devait lui arriver, eh ben ça contribuerait à exciter encore plus ses supporters et à faire de sa victoire, qu'il espère, un véritable triomphe.
On va probablement vers le même duel qu'en 2020, avec une issue peut-être différente cette fois. Joe Biden risque-t-il d'être moins plébiscité par le camp démocrate ? Et si oui, pour quelle raison ?
Ouais, c'est un doux euphémisme, hein. Il est bien moins que plébiscité. Il a un énorme problème de popularité. Son affabilité ne pose pas de problème. Tout le monde le considère comme quelqu'un de très bien sur le plan moral, humain. Donc c'est peut-être une des grandes qualités qu'on lui prête encore. Il a un vrai souci par rapport à l'électorat jeune, par rapport à certaines minorités. Et sa vieillesse revient systématiquement dans toutes les conversations. C'est très compliqué pour les démocrates d'accepter qu'ils vont élire quelqu'un qui a 81 ans, qui en aura 82 pendant sa première année de mandat et qui, s'il survit jusque-là, terminerait ce second mandat à l'âge vénérable de 86 ans. C'est vraiment très compliqué pour les démocrates qui sont confrontés à un dilemme personnel, intime, terrible. Et à ça s'ajoute la politique pro-israélienne de Biden, qui fait que certaines minorités, la communauté arabo-musulmane aux États-Unis, très importante dans certains États comme le Michigan et New York, n'apprécient pas du tout le soutien résolu de l'administration Biden à l'État hébreu et à l'armée israélienne, Tsahal, pendant la guerre à Gaza. Ça pourrait lui valoir des désistements, une abstention record dans des États clés, ces fameux swing states, qu'il doit gagner. Et on pense très fort au Michigan, qui fait partie de ce mur bleu, de ce mur démocrate qui est censé faire gagner les présidentielles au président américain. Il y a un précédent. En 2016, Hillary Clinton, pour d'autres raisons évidemment, pensant que ce mur bleu était là pour toujours, n'avait pas daigné faire campagne dans le Michigan, elle ne s'était pas rendue du tout dans le Michigan. Et c'est une des raisons qui explique sa défaite surprise, choquante, face à Donald Trump alors qu'elle était archi-favorite.
C'est aussi un duel entre deux hommes très âgés. Joe Biden a 81 ans et Donald Trump en aura 78 en novembre. Est-ce que c'est significatif du manque de renouvellement politique aux États-Unis et peut-être d'un manque de vitalité de la démocratie américaine selon vous ?
Oui, il y a un vrai problème de vitalité de la démocratie américaine. On attend une nouvelle génération qui ferait preuve de plus d'enthousiasme, de plus de présence, qui serait peut-être plus moralement défendable que quelqu'un comme Donald Trump, plus dynamique que quelqu'un comme Joe Biden. Mais il ne faut pas oublier que Joe Biden a été élu en 2020 comme un véritable rempart au trumpisme, à ce populisme qui était en train de détruire la fabrique, le tissu de la société américaine en attisant, en dressant les gens les uns contre les autres, y compris même au sein des familles américaines. Depuis 2016, les enfants et les parents ne se parlent plus, les repas de Thanksgiving sont devenus très compliqués dans beaucoup de familles américaines. Hein. Les parents en général sont pro-Trump et les enfants sont vent debout contre leurs propres parents. Ça rappelle un petit peu la guerre du Vietnam où les générations avaient eu un gros problème à s'entendre. Joe Biden est beaucoup trop vieux. En se justifiant être le seul qui pouvait battre Donald Trump à la régulière dans une élection, à la différence évidemment de Hillary Clinton. Il a un petit peu étouffé la concurrence, alors qu'il y a une jeune génération de leaders démocrates qu'on voit pointer, qui sera au rendez-vous en 2028. L'actuel gouverneur de Californie, Gavin Newsom, la représentante de l'État de New York qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez, tous ces gens sont là, sont dans les starting blocks, ils sont prêts à se présenter, mais pour l'instant, évidemment, ils restent à couvert dans le bois en attendant que Joe Biden termine son terme.
Merci Morin.
Merci.
Racisme, homophobie, sexisme, le milieu du football est gangréné par toutes sortes de discriminations, discriminations qui restent la plupart du temps impunies.
L'Union belge de football et la Pro League ont donc lancé une campagne pour lutter contre, pour signaler et pour punir ces discriminations. Lauren Kiel du Pôle Sport a obtenu le nombre de signalements recensés par l'Union belge sur la saison 2022-2023. Elle nous explique. Bonjour Lauren.
Bonjour Pierre.
On va un tout petit peu parler chiffres pour commencer, mais le nombre de signalements pour discrimination, il a donc augmenté sur l'année qui vient de s'écouler ?
Alors oui, il a augmenté sensiblement en l'occurrence de 21,5%. Donc on a eu sur la saison 2022-2023, celle qui vient de passer, 452 signalements. Donc qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que ça dit qu'il y a eu plus d'incidents de type discrimination ? Donc on parle de racisme, d'homophobie, de sexisme, de grossophobie ? Pas nécessairement. Il y a fort à parier que ça traduit plus le fait qu'on signale davantage ce qui se passe. Et donc on reste sur la pointe émergée de l'iceberg, a priori avec ces 452 signalements, mais ça montre quand même que le système que l'Union belge a mis en place est un peu mieux connu. Est-ce qu'eux avancent aussi, et ce qui n'est pas improbable, c'est que les gens ont aussi peut-être plus confiance dans le fait de signaler, parce qu'ils savent que derrière c'est traité. Donc c'est pas juste, comment dire, un chiffre qui fait joli, mais où dans les fonds c'est du vent. Concrètement, il y a un suivi sur beaucoup de ces dossiers qui aboutissent à des sanctions, à de l'accompagnement, à de la sensibilisation, mais qui aboutissent à quelque chose.
On va y venir évidemment à suivi. Juste avant, vous avez évoqué quelques-uns des types de discrimination que l'on peut rencontrer. Tout le monde est concerné, tous les joueurs et les joueuses de foot, peu importe leur âge et leur niveau de professionnalisme.
Alors tout le monde est concerné, oui. Maintenant, les chiffres montrent que ça se passe de façon écrasante et majoritaire, encore là, une fois on parle des signalements, donc ce qu'on peut mesurer, au niveau des équipes jeunes. Statistiquement, les équipes jeunes sont écrasantes dans les différents championnats, donc côté ACFF ou Football Vlaanderen. Cela dit, c'est assez interpellant parce que quand on voit le type de dossiers qui sont amenés à être traités, on est sur globalement beaucoup des insultes, mais qui touchent à l'identitaire, à des choses qui sont extrêmement douloureuses. Et donc de voir dans quelle proportion ça peut être adressé à des enfants, des adolescents, c'est vraiment interpellant.
Signaler, c'est bien, mais c'est une première étape seulement. Il y a un chemin qui est prévu après pour que ce signalement, il évolue éventuellement en plainte, voire en sanction.
En fait, ce qui est intéressant avec Come Together, donc c'est la campagne qui a été mise en place autour de cette lutte contre la discrimination et le racisme, c'est qu'au-delà de l'aspect campagne, sensibilisation, grand renfort de com, il y a eu une vraie réflexion sur la façon dont ils allaient traiter et faire le suivi de ces plaintes. Donc concrètement, comment ça se passe ? Il y a des signalements, soit que des gens font d'initiative, soit via les feuilles de match des arbitres. Dans leur rapport, ils ont désormais l'obligation de consigner quand il y a un incident, y compris, et ce qui n'était pas le cas avant, quand ils n'étaient pas eux-mêmes témoins. Mmh. Donc si à un moment donné, il y a un coéquipier qui dit un tel a dit telle insulte ou sur le bord du terrain, il s'est passé ça, même s'il ne l'a pas vu, il doit en parler. Bref, ces signalements sont après traités par le parquet, donc c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système qui singe une cour de justice classique. Donc le parquet reçoit et va voir s'il y a matière à instruire ou pas. Donc parfois, ça relève aussi du pénal et alors ils vont en diriger. Parfois, il n'y a pas assez d'éléments et donc ils sauront qu'ils ne sauront rien en faire. Mais s'il y a matière, alors ils instruisent le dossier et ça va devant ce qu'on appelle la Chambre nationale pour les discriminations et le racisme. Et où là, ça va être aussi, il va y avoir des juges et des conseillers qui vont entendre les différentes parties, qui vont voir les preuves et les éléments qui sont amenés au dossier et qui, à partir de là, vont prendre des sanctions ou pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant, tout ça a été jugé par la même chambre qui s'occupait aussi de savoir si une carte avait été abusive ou pas. Enfin, on mélangeait un peu tout. Là, c'est des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent et qui sont un peu spécialisés là-dessus.
Oui, on sort cette question des discriminations du purement sportif. C'est plus les mêmes juges qui vont juger des règles du jeu qui vont aussi se prononcer sur des comportements comme ça.
C'est ça. Donc, c'est des gens qui ont un bagage qui leur permet aussi d'avoir une analyse plus fine et les outils qu'on va avoir derrière en termes de mesures à prendre vont être aussi plus raffinées, si je puis dire. Donc, bien sûr, il y aura un volet répression qui peut être des matchs à huis clos, qui peut être des sanctions financières aussi, mais ils vont travailler beaucoup avec de l'éducatif, entre guillemets. Donc ça va être ce qu'ils appellent des mesures alternatives. Ça va de demander à un club de mettre en place un effort de sensibilisation au sein du club, donc à destination des joueurs et ou des supporters. Ça va être aussi, dans certains cas, là où on identifie vraiment des personnes problématiques, par exemple. Il y a des collaborations qui ont été faites avec la caserne d'Ossin, avec l'Africa Museum à Tervuren, avec la Rainbow House, donc sur tout ce qui est homophobie, et de manière générale, les questions LGBTQI+. Donc on va avoir ces systèmes d'accompagnement. En gros, leur démarche, c'est de se dire, si le but c'est de changer les mentalités, et si le but c'est de changer la culture autour du foot en Belgique, réprimer c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Donc ils vont essayer de sensibiliser et d'éduquer les gens.
Dernière petite chose, dans le cadre de cet article, vous avez interrogé la sœur du Diable Rouge, Amadou Onana. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle qui a vu, qui a vécu ces discriminations, notamment à l'encontre de son frère? Qu'est-ce qu'elle pense de cette initiative? C'est ce qu'il faut faire?
Alors, elle aime beaucoup. Forcément, ils sont allés, eux, la chercher, donc c'est pas pour rien. Et donc, elle dit que son frère aussi a soutenu dès le début parce que c'est quelque chose qu'ils ont vécu toujours, en fait. Donc, quand ils sont arrivés en Belgique, il a notamment joué pour Anderlecht au ESL. Et elle raconte comme il était tout gamin, en fait, et il se retrouvait dans des villages où il se faisait insulter parce que juste il avait fait un tacteur à pied, et donc les parents réagissaient super mal, les gens mentionnaient réagissaient super mal, et elle racontait à quel point c'était dur pour elle, parce qu'en fait c'est elle qui entendait plus que son frère, parfois de rester calme, mais elle voulait continuer à donner l'exemple pour son frère, et donc de juste prendre sur elle, et prendre sur soi, donc à un moment donné, de voir qu'il y a des actes qui sont posés aussi, et qu'on arrête de faire semblant que c'est juste un problème de société, que la société dans son ensemble doit gérer, c'est quelque chose, en tout cas, quand elle en parlait, qui lui tenait à cœur. Après, ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait un gros effort à faire d'éducation, de sensibilisation, un gros effort à faire aussi au niveau politique, notamment sur tout ce qui est haine en ligne, régulation des réseaux sociaux et mesures qu'on peut prendre là-dessus.
Merci beaucoup, Lorraine.
Merci, Pia.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin.
Merci de votre fidélité. Si vous avez envie de nous soutenir, n'hésitez pas à nous donner plein d'étoiles sur toutes les plateformes de podcast.
À demain.